Bonsoir Marie Sorbier.
Ce soir, Arnaud, nous allons évoquer le poète Paul Celan, car nous fêtons ces jours-ci le centenaire de sa naissance. Les Cahiers de Lerne viennent d'ailleurs de sortir un opus consacré à cet auteur. Nous sommes ce soir avec l'acteur et metteur en scène Nicolas Bouchot. Bonsoir. Vous avez récemment porté à la scène les mots de Paul Celan, mots réputés difficiles d'accès. Alors comment avez-vous travaillé pour que cette langue puisse nous parvenir ?
Je crois que l'écriture de Celan, elle ne cherche pas à représenter quelque chose, n'est pas dans la reproduction d'une réalité, elle n'est pas dans la mimésis. L'écriture de Celan est elle-même un paysage. Et qu'il faut donc accepter de rentrer d'abord dans un paysage qu'on ne reconnaît pas. Et tout le plaisir qu'on peut y prendre, c'est justement de ne pas le reconnaître et de s'y avancer, de s'y aventurer quand même. C'est très intéressant la question parce que moi j'ai fait ce spectacle autour du Méridien, donc qui est le discours qu'il a prononcé quand il a reçu le prix Büchner, discours dans lequel il essaye de définir le travail poétique et qu'est-ce que c'est pour lui la poésie. L'envie de ce spectacle m'était venue parce que je trouve l'écriture de Celan magnifique et justement c'est pas une histoire de compréhension, je la trouve magnifique parce qu'elle m'appelle d'une façon qui ne passe pas par son sens premier en tout cas, ça c'est certain. Mais on peut être appelé par des choses qui nous semblent inconnues, au fond. Et c'est ça qui est bien. Donc j'avais fait ce spectacle aussi parce qu'il y a très longtemps, je me souviens qu'une jeune fille, qui était la fille de ma compagne de l'époque, était arrivée un jour dans le salon, où j'étais assis sur le canapé, un dimanche après-midi, avec un livre dans la main, et ce livre, c'était un livre de Rimbaud, et c'était le poème qu'elle étudiait au lycée, c'était Le bateau ivre. Et elle sort de sa chambre en me disant « Écoute, je comprends rien. Je comprends rien à ce poème, je comprends pas. Ça veut dire quoi, morve d'azur, tout ça ?» Et moi, à cette époque-là, j'avais été assez feignant, et j'avais dit « Mais si, quand même, regarde ce poème, Arthur Rimbaud, quand même, c'est beau. » Point. Je n'étais pas allé plus loin, je lui répétais, mais si quand même, regarde, c'est beau. Mais ça ne veut rien dire, c'est beau. Ça ne veut rien dire. Et donc, quand j'ai fait ce spectacle sur Celan, qui est encore plus compliqué que Rimbaud, je me suis souvenu de cette histoire et je me suis dit, tiens, je vais faire ce spectacle pour essayer d'expliquer, au fond, à travers les paroles de Celan, qu'est-ce qu'on peut dire de la poésie.
Toute la poétique de Celan tient dans son impératif, à la fois moral et esthétique, de créer ce qu'il appelait une contre-langue, et qui consiste en fait dans cette mise en accusation implacable et définitive de la langue et de la culture allemande, dont la Shoah était l'aboutissement. Est-ce que vous avez ressenti ça en tant qu'acteur, vous, Nicolas Bouchot ?
Ah oui, très fortement. Très, 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 très fortement. Toute la poésie, toute l'œuvre de Celan part d'Auschwitz, part de la Shoah. Et ce qui est très important de dire, c'est que ce n'est pas la Shoah en tant que ce serait l'événement catastrophique qui viendrait clore une séquence. Celan, il écrit à partir de la Shoah. Ça veut dire la Shoah comme début de quelque chose. Et non pas comme une chose qui serait terminée et qu'on pourrait commémorer. Et c'est très important. La poésie n'est pas une chose commémorative. L'art n'est pas un geste commémoratif. Et donc, ce que fait Celan, ce qu'entreprend Celan, et qui est tout à fait merveilleux et bouleversant, il le dit d'une façon très simple et très rapide. Il disait souvent « Je vais enjuiver la langue allemande ». On sait que la langue allemande, à travers le régime nazi, a été polluée. C'est la langue du Troisième Reich de Klemperer. Donc, toute l'entreprise de Celan, c'est de laver, de nettoyer, de rendre à la langue allemande ce qu'elle était avant le régime nazi, avant la pollution. Voilà. Et donc, il construit toute une série de correspondances entre certains mots, la pierre, l'étoile, se tenir droit, stehen en allemand, qui fait résonner avec Stein, la pierre. Donc il y a toute une correspondance comme ça de mots, et il y a tout un système de retournement dans la poésie de Celan. Par exemple, le ciel, dans les poèmes de Celan, c'est la tombe. Le ciel, c'est la tombe des Juifs. parti en fumée à Auschwitz. Et puis il y a une correspondance avec les étoiles, qui sont aussi l'étoile de David. C'est l'étoile qui brille. Bon, il y a toute une correspondance comme ça. Mais la grande entreprise de Ceylan, et c'est une décision extrêmement importante, esthétique et éthique de son parcours, d'avoir continué à écrire en allemand et d'avoir voulu, à travers sa poésie, retravailler du dedans la langue allemande pour la sortir de cette gangue mortifère qui était le nazisme. Dans le spectacle qu'on a fait, le Méridien, d'après le discours du prix Büchner, à la fin du spectacle, je disais un poème très long de Ceylan que j'ai toujours trouvé magnifique, qui s'appelle Strette et qui se trouve à la fin de son recueil de poèmes qui s'appelle Grille de parole. Alors je ne vais pas le lire en entier, mais juste les trois premiers paragraphes. Ça commence comme ça. Porté sur le terrain, avec la trace qui ne ment pas. Herbe écrites séparées, les pierres blanches, avec l'ombre des tiges. Ne lis plus, regarde, ne regarde plus, va. Va, ton heure, n'a pas de sœur, tu es de retour. Une roue, lentement, tourne d'elle-même, les rayons grimpent. Grimpe sur un champ noirâtre la nuit, n'a pas besoin d'étoiles. Nulle part on ne s'inquiète de toi. On ne reconnaît pas le paysage. Ce qui compte désormais dans le poème, c'est la zone incertaine où l'ombre se mêle à la clarté. C'est ce qui se dérobe à la perception immédiate. L'ombre donnée à la parole. Et Ceylan le dit lui-même dans le Méridien, en citant un mot de Blaise Pascal, « Ne nous reprochez pas le manque de clarté, puisque nous en faisons profession. » Ce n'est pas une posture esthétique. On dit d'ailleurs que l'œuvre de Ceylan, comme celle de Beckett, aurait contribué à faire changer d'avis le philosophe Adorno, qui soutenait qu'on ne pouvait plus écrire de poèmes après Auschwitz. On ne peut pas affirmer ça de façon aussi simpliste, mais on sait qu'Adorno admirait Ceylan et Beckett. On sait qu'il est revenu sur cette assertion en écrivant dans Dialectique négative. Il pourrait bien avoir été faux d'affirmer qu'après Auschwitz, il n'est plus possible d'écrire des poèmes. On sait aussi que Grille de parole, le livre de Ceylan, est le premier recueil envoyé par Ceylan à Adorno. On sait aussi qu'il existe une correspondance entre les deux hommes. Ce qu'on comprend du geste poétique de Paul Ceylan, qui se déploie donc à partir de la catastrophe d'Auschwitz, c'est qu'il ne commémore rien, qu'il ne cherche pas à s'inscrire dans les archives de l'histoire et les monuments de l'histoire. Le poème n'est pas un supplément d'âme, avec lequel en général les partis politiques veulent rhabiller l'art et la culture, évacuant ainsi le danger, car comme le dit Georges Didier Berman, la culture n'est pas la cerise sur le gâteau de l'histoire, c'est encore et toujours un lieu de conflit où l'histoire même prend forme et visibilité. Pour que chaque histoire puisse se transmettre, il faut l'arracher au conformisme qui la récupère. Pour que l'oublié reste en nous et parmi nous, il doit s'inventer de nouvelles formes de visibilité. Ne pas s'attacher au sens des mots, mais à leur fonction. Pour penser un nouveau rapport entre les mots et les choses, entre les perceptions et les actes. Ça, c'est quelque chose d'intéressant pour les acteurs. Car il s'agit de percevoir plutôt que de représenter. Ce qui est en train d'apparaître ne se représente pas.
Vous allez publier en janvier 2021 un ouvrage chez Actes Sud intitulé « Sauver le moment » où il est aussi question de Paul Ceylan. Et vous reprendrez au Théâtre de la Bastille les maîtres anciens d'un autre auteur que vous affectionnez particulièrement, Thomas Bernhardt. Merci beaucoup Nicolas Bouchot.
Et merci à vous Marie Sorbier.